VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 12 janvier 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
L'ambassadeur de la RDC à Bangui déplore la manière dont l'ONU a pris sa décision de retirer le contingent congolais de la MINUSCA.
En Syrie, évacuation possible dès aujourd'hui de centaines de civils en grand danger de mort à Madaya, ville assiégée depuis 6 mois par l'armée.
Un Américain de 31 ans a été inculpé pour soutien matériel au groupe terroriste somalien Al-Shabaab.
Le processus d'extradition vers les États-Unis du baron mexicain de la drogue El Chapo pourrait prendre 1 an, avertit le Mexique.
Et ici aux États-Unis, la loterie du Powerball a dépassé 1,3 milliard de dollars, du jamais vu, le plus grand jackpot de l'histoire.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports et, comme promis, les déclarations du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU sur le Burundi et la RDC. Pour l'instant, le journal. En Centrafrique, l'annonce du retrait du contingent congolais de la MINUSCA suscite des réactions. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bangui a déclaré que son pays prend acte de la décision de l'ONU tout en déplorant la manière dont elle a pris cette décision. Au micro de notre correspondant Friban Sipila, écoutons M. Esdras Kambale-Bahekwa.
Que ce soit les autres forces au sein de la MINUSCA, que ce soit au niveau de la population de la République centrafricaine, le contingent de la RDC est très apprécié. Je voudrais mettre à défi quiconque pourra me contredire. Mais ce contingent travaille sous l'ONU. C'est lui le mari. Quand il dit qu'il n'a plus besoin de sa femme ou d'un enfant, qu'est-ce que vous voulez que la RDC puisse faire? La RDC plie bagage et rentre au village. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut remercier un contingent qui a travaillé et qui a bien travaillé. On me parle de cas de violence sexuelle, abus sexuels. Ben, un contingent de 800 personnes. Pour 4 cas d'abus sexuels et qui ne sont pas avérés, que nous, la RDC, nous n'avons pas accepté. On remballe tout un contingent. Nous sommes tous des Africains. Nous comprenons. Il doit y avoir beaucoup d'en dessous des cartes.
C'était Esdras Kambale-Bahekwa, ambassadeur de la RDC en Centrafrique.
En République démocratique du Congo, 7,5 millions de personnes, soit près de 9% de la population, sont frappées par une crise humanitaire aux proportions massives. Selon l'ONU, l'ensemble du territoire congolais est dans le besoin d'une assistance estimée à 690 millions de dollars cette année. Eric Manirakiza.
Selon le plan de réponse humanitaire 2016 pour la RDC publié hier par l'ONU, les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables et sont souvent accueillies par les foyers démunis. La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Choléra, paludisme, rouge jaune et fièvre hémorragique font des ravages, a écrit l'organisation internationale. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires prévoit 690 millions de dollars pour assister 6 millions de personnes cette année sur 7,5 millions de personnes dans le besoin, soit près de 9% de la population du pays. L'Est de la RDC demeure la partie la plus frappée avec plus de 1,6 million de déplacés internes l'an passé. Mais la situation de conflit en Centrafrique, au Soudan du Sud et au Burundi risque d'engendrer de nouveaux besoins humanitaires avec l'afflux de nouveaux réfugiés vers le Congo, a déploré l'ONU.
Et puis le ministère congolais de la Défense a annoncé que ses forces armées ont, depuis janvier 2015, neutralisé plus d'un millier de membres du groupe rebelle des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Ces rebelles, qui étaient concentrés dans l'est de la RDC, ont été accusés de nombreuses violations des droits de l'homme, dont meurtres, viols et recrutement d'enfants soldats.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, des centaines de civils en grand danger de mort pourraient être évacués dès mardi de Madaya, ville assiégée depuis 6 mois par l'armée et dont la population souffre de famine. C'est ce qu'a annoncé hier Stephen O'Brien, chef des opérations humanitaires de l'ONU. Le Croissant Rouge syrien a indiqué qu'un convoi de 44 camions transport, nourriture, médicaments et couvertures était entré lundi dans Madaya. 400 000 civils au total sont piégés dans les villes syriennes assiégées par l'armée du régime de Bachar al-Assad ou par des rebelles, d'après les Nations Unies.
Un Américain de 31 ans a été inculpé pour soutien matériel au groupe terroriste somalien Al-Shabaab. Il s'agit de Malik Halim Jones, un habitant du Maryland, qui a été accusé de s'être rendu en Somalie pour y subir un entraînement. Après la Somalie, Jones est allé à New York, puis au Kenya via le Maroc et les Émirats Arabes Unis, où il s'est entraîné au meurtre et à la destruction de communautés au Kenya. Il a été arrêté selon les autorités alors qu'il tentait d'entrer au Yémen, où les combattants sunnites alliés à l'Arabie saoudite affrontent les insurgés chiites houthis.
Un détenu saoudien de la prison américaine de Guantanamo a été repatrié dans son pays, portant à 103 le nombre de détenus qui restent dans le camp sur l'île cubaine. John Linden.
Mohamed Chamrani, 40 ans, est arrivé hier en Arabie saoudite d'après Gary Ross, un porte-parole du Pentagone. Il était détenu depuis 14 ans à Guantanamo après avoir été fait prisonnier fin décembre 2001 pour avoir combattu l'offensive américaine contre les talibans. Il était accusé d'avoir été un recruteur pour Al-Qaïda et peut-être un garde du corps d'Oussama Ben Laden. Le Pentagone estime que l'ancien détenu devra participer dans son pays à un programme de réintégration et de réhabilitation auquel est associée sa famille. Guantanamo, créé en janvier 2002 sur l'île de Cuba, après les attentats du 11 septembre 2001, près de 779 personnes ont été emprisonnées à Guantanamo. Mi-décembre, le Pentagone avait annoncé le transfert des 17 prisonniers et il ne restera que 90 détenus dans ce camp. Le président Barack Obama avait, dès son premier mandat, fait de la fermeture de cette prison une promesse, mais s'est résigné à signer à la fin novembre la loi de défense 2016 qui renouvelle en particulier l'interdiction de fermer Guantanamo.
Le processus d'extradition vers les États-Unis du baron mexicain de la drogue Joaquin El Chapo Guzman prendra au moins un an, voire beaucoup plus si ses avocats utilise tous les recours légaux, ont averti les autorités mexicaines, cher Rubén Dorcil.
Des représentants d'Interpol se sont rendus dimanche à la prison d'Altiplano, où le baron de la drogue est de nouveau incarcéré, pour délivrer 2 mandats d'arrêt aux fins d'extradition. Le gouvernement mexicain a précisé avoir reçu une demande formelle des États-Unis le 25 juin, 2 semaines avant l'évasion. Ce processus pourrait durer au moins 1 an, voire beaucoup plus, a averti hier José Manuel Merino Madrid, du bureau du procureur du Mexique. L'avocat d'El Chapo ne se laissera pas faire car il a assuré qu'il mènera une bataille juridique sans fin, pouvant aller jusqu'à la Cour suprême au motif que son client risque la peine de mort aux États-Unis. Le chef du cartel de Sinaloa fait l'objet de poursuites dans plusieurs États américains. Joaquin El Chapo Guzman a été arrêté vendredi, 6 mois après son évasion rocambolesque de la prison de haute sécurité d'Altiplano le 11 juillet dernier. C'était la 2e fois que le narcotrafiquant s'échappait d'une prison mexicaine après une première évasion en 2001 dans un panier de linge sale.
Et ici aux États-Unis, la loterie du Powerball a dépassé la somme faramineuse de 1,3 milliard de dollars. C'est le plus grand jackpot de l'histoire. Les Américains se ruent pour jouer et tenter de devenir milliardaires ce mercredi. Mélisse Hegel nous en dit plus.
Le gros lot de 950 millions de dollars du Powerball n'a pas été gagné samedi dernier. Maintenant, la cagnotte atteint la somme astronomique de 1,3 milliard de billets verts. Des millions d'Américains se ruent vers les comptoirs pour cocher leur numéro fétiche avant le tirage de mercredi soir. Pour remporter la mise, le chanceux doit deviner les 5 bons numéros, plus le complémentaire. Powerball est une loterie bi-hebdomadaire dont les billets sont vendus dans 44 États américains, ainsi qu'à Washington, Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. La loterie propose aux vainqueurs de recevoir l'intégralité de leurs gains ou d'investir pour recevoir le principal et les intérêts étalés sur 29 ans. Si le gagnant choisit de recevoir ses sous maintenant, il ne percevrait que lieu et excusez du peu 806 millions de dollars. Avec les taxes fédérales et celles de l'État concerné, le gagnant finalement ne recevra à peu près que la moitié. Comme le rêve est permis, alors faites vos jeux.
La Minute Éco avec John Lyndon.
Le Gabon vient de bénéficier de deux prêts cumulés d'un montant de 212 millions de dollars de la part de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Selon un communiqué publié le 10 janvier par la présidence gabonaise, ces prêts serviront à financer deux importants projets d'infrastructure. Le premier prêt, d'un montant de 51,6 milliards de francs CFA, servira à financer la construction du port commercial dans la ville de Wendo. Le deuxième prêt, dont le montant s'élève à 75,6 milliards de francs CFA, est destiné à financer la construction d'une autoroute reliant Libreville à d'autres villes gabonaises. En Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan a enregistré un trafic de 21,47 millions de tonnes de marchandises au cours de l'année écoulée, en hausse de 3% par rapport à 2014. Un regain d'activité tiré par l'augmentation du trafic national de 8% et du trafic de transit de 6%. Le port d'Abidjan a réalisé 79,9 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2015, une croissance de 10,3% comparé à 2014. Il faut noter que le port d'Abidjan accueille 90% des échanges commerciaux du pays et gère 85% de ses recettes douanières. Le courtier en assurance Grâce à Voy, présent dans une trentaine de pays africains, passe sous le contrôle de la multinationale britannique Willis Group, troisième courtier mondial. L'opération de rachat de 70% de parts du premier courtier français a été finalisée le 30 décembre dernier.
Les sports à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Messi, roi de la planète football.
Un cinquième ballon d'or pour Lionel Messi, redevenu le meilleur joueur du monde en 2015. Messi, devancé ces deux dernières années par son vieux rival Cristiano Ronaldo, n'avait cette fois pas grand-chose à craindre du Portugais ni de son coéquipier au FC Barcelone, Neymar. À 28 ans, Léo est donc le quintuple lauréat de ce trophée, détenteur du record des titres 2009, 2010, 2011, 2012 et maintenant 2015. Il a écrit une nouvelle page de sa légende en s'offrant un quintuplé avec le Barça, la Ligue des Champions, le championnat espagnol, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Et ce, tout en faisant exploser quelques compteurs sur le plan individuel. Seul hic dans cette année faste, son nouvel échec avec l'Argentine en finale de la Copa América, c'était contre le Chili, 12 mois seulement après la défaite en Coupe du Monde au même stade de l'épreuve.
Djokovic, toujours roi de la planète tennis.
Novak Djokovic a entamé 2016 sur les chapeaux de roue et a cru son avance en tête du classement ATP après sa victoire à Doha, un 60e titre qui le fait entrer dans le top 10 des joueurs les plus titrés de l'histoire, et ce à une semaine du début de l'Open d'Australie. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA cette nuit, le championnat de basket nord-américain.
San Antonio écrase Brooklyn Nets 106-79. Washington bat Chicago 114-100.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head, yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start?
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme promis hier, dans cette même édition matinale, la partie Burundi et RDC de l'interview exclusive que le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a accordé à Jacques Aristide au siège de l'ONU à New York. Il est très inquiet pour le Burundi, qui pourrait bien, estime-t-il, se diriger soit vers un génocide à la rwandaise, soit vers une guerre civile. Pour commencer, M. Latsou commente ici une recommandation du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur le Congo, une éventuelle nouvelle réduction des effectifs de la MONUSCO en RDC.
D'abord, je crois que tout le monde le comprend bien, il nous faut une stratégie de sortie. La MONUSCO, comme la plupart des opérations de maintien de la paix, n'a pas vocation à se pérenniser indéfiniment. Et des progrès incontestables ont été faits dans le renforcement du potentiel des forces de sécurité congolaises qui, graduellement, assument une part grandissante du fardeau. Ceci étant, il faut effectivement que ce soit géré de manière prudente, c'est-à-dire que nous ne fragilisions pas les résultats qui ont été chèrement acquis au fil des années. Donc nous sommes en discussion avec le gouvernement de la RDC pour trouver la bonne pente de décélération et en même temps rester en mesure de faire face aux menaces qui subsistent. Vous avez raison de le dire, dans l'est du Congo, nous avons les rebelles ougandais de l'ADF, mais nous avons également des rebelles du FDLR qui, il y a quelques jours, ont probablement assassiné une quinzaine de personnes qu'on a retrouvées mortes, égorgées. Il y a des maï-maï de différentes obédiences un peu partout. Et donc, nous continuons à y travailler. Et voilà, donc il faut trouver la bonne adéquation entre la menace et les moyens d'y faire face.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promis de répondre par la force si l'Union africaine envoie ses troupes. Pourtant, la crise est loin d'être finie. Le dialogue entre le pouvoir burundais et l'opposition n'a pas repris le mercredi 6 janvier, comme l'avait demandé la médiation ougandaise. Est-il temps pour l'ONU et ses partenaires d'envisager sérieusement un déploiement de forces de maintien de la paix au Burundi si le pays se dirige vers un génocide à la rwandaise?
Vers un génocide ou vers une guerre civile, car il y a aussi des problèmes politiques internes à certaines des communautés. Non, je crois que chacun prend la mesure, effectivement, de la gravité des évolutions en cours au Burundi. Et dans ce contexte, le Conseil de sécurité m'a demandé de faire une planification prospective que nous avons déjà bien entamée, avec évidemment toute une série de paramètres. Est-ce que nous serions amenés à intervenir en prévention ou au contraire en réaction à des événements? Est-ce que nous serions amenés à intervenir avec le consentement du gouvernement burundais ou sans ce consentement? Est-ce que nous serions amenés à intervenir en appui à cette force de protection africaine, la MAPROBU, que le président Nkurunziza, pour le moment, n'accepte pas? Un des paramètres pour nous, c'est évidemment la réalité, qui est que nous avons 20 000 casques bleus en RDC à 30 km de Bujumbura. Donc l'un des scénarios possibles, mais ce sera au Conseil de sécurité d'en décider, ça serait de provisoirement et dans une situation d'extrême urgence, relocaliser plusieurs bataillons de la MONUSCO pour faire face à des tâches prioritaires autour de la capitale, de l'aéroport, et commencer à faire de la protection des civils en attendant qu'une force sans doute africaine prenne le relais. Mais tout cela est en cours de réflexion.
Mais ne sentez-vous pas l'urgence?
Mais l'urgence, elle m'était apparue il y a 6 mois, et je peux vous dire que c'est déjà il y a 6 mois que j'avais demandé que nous commencions à réfléchir discrètement à cette option de prélever des unités MONUSCO pour faire face au plus pressé.
Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Et je vous rappelle que l'intégralité de cette interview sera diffusée dans Washington Forum ce jeudi 14 janvier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le prix de la presse diplomatique 2015 a été attribué hier au journaliste burundais Esdras Ndoukoumana, correspondant de l'agence France Presse et de Radio France Internationale au Burundi. Le journaliste a reçu son prix des mains du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Vivant aujourd'hui en exil au Kenya, Esdras Ndoukoumana est particulièrement touché de recevoir ce prix qu'il a dédié à tous ses confrères burundais.
Je disais donc, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de voir le travail accompli au cours de 16 dernières années reconnu, une telle reconnaissance par les confrères journalistes français qui ont reconnu le travail que j'ai fait sur le terrain pendant cette dizaine d'années. Donc je suis vraiment ému, satisfait, mais aussi c'est un sentiment de partage avec mes confrères burundais qui sont sur le terrain, qui ont travaillé dans les mêmes conditions et qui pour la plupart ont été obligés de fuir le pays. Je parle des journalistes, des médias indépendants. 90% ont fui le pays, il en reste 10% qui travaillent dans des conditions épouvantables parfois, et donc je leur dédie ce prix.
Revenons un petit peu à vous, après avoir été tabassé par les services de renseignement. Vous vivez maintenant en exil au Kenya. Peut-on aujourd'hui faire son métier de journaliste au Burundi ?
Ça dépend de ce qu'on attend par son métier de journaliste. On veut vraiment travailler librement, faire son travail comme on l'attend, c'est-à-dire professionnellement, dans toute conscience, déontologie. C'est plutôt difficile. Bon, il y a des journalistes de la radio nationale qui travaillent, il y a des journalistes de certaines radios plutôt proche du pouvoir qui travaille, mais ce n'est pas vraiment du travail, c'est un autre genre de journalisme. Si on veut faire son travail correctement, honnêtement, c'est très difficile aujourd'hui au Burundi parce que les conditions ne le permettent pas.
Quelle est pour vous la situation des libertés individuelles au Burundi et une sortie de crise est-elle encore possible ?
Sur les libertés, c'est vraiment, je suis abasourdi, je suis totalement anéanti en voyant comment le pays a reculé. Ce qui s'est passé depuis que le président Nkurunziza a décidé d'obliger le troisième mandat, il y a eu des manifestations qui se sont transformées en insurrection armée suite notamment à la répression très très forte qui avait frappé les manifestants. Et puis aujourd'hui, donc, on assiste un peu à la naissance de nouvelles rébellions au Burundi. On a déjà basculé dans la guerre civile, je ne peux pas le dire tout à fait, mais si on n'a pas encore basculé, on en est proche. Alors la situation des droits de l'homme et des libertés civiques a totalement régressé. Le Burundi, sur le plan par exemple de la liberté de presse, la liberté d'expression, elle a été arrivée à un point très satisfaisant, un peu en avance de tous les autres pays de la région. Les organisations de la société civile étaient très actives. Aujourd'hui, tout ça est parti en lambeaux, tout ça a été cassé. C'est grave ce qui se passe dans le pays sur ce plan-là, à cause justement de toutes ces violences. Alors, la sortie de crise au Burundi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'une seule voie possible dans ce pays aujourd'hui, c'est la voie des discussions, la voie de la négociation, ou comme on dit au Burundi, la voie du dialogue inter-burundais. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut que les parties en conflit arrivent à s'entendre pour qu'on sorte de ce conflit avant que la crise ne s'aggrave.
C'était le journaliste burundais Esdras Ndoukoumana, joint à Paris par Claire Morin-Gibourg. Au Congo-Brazzaville, le Conseil national de lutte contre le sida est en arrêt de travail. Son personnel réclame 20 mois de salaire impayé et refuse de travailler. D'autre part, les personnes vivant avec le VIH sont dans le désarroi. Les médicaments ne leur parvenant presque plus, nous dit Nguela Ngosu, notre correspondant à Brazzaville.
Jusqu'à 9h du matin, alors que brouillent les véhicules sur l'avenue Ganga-Édouard, les bureaux du Conseil national de lutte contre le sida à Brazzaville sont toujours fermés, cadenassés et soudés pour être précis. Au fond de la cour se trouve un groupe de travailleurs. Ils sont en grève, ils traînent 20 mois de salaire impayés.
Tous les jours, on est obligé d'être là pour donner un peu un sens à ce que nous réclamons. On a attendu 20 mois et on va attendre le nombre de jours, espérons, qui vont arriver plus bon. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, les autorités qui sont bien placées sauront trouver une solution d'ici là.
Pour Romain Ayessa, un des membres de la coordination des travailleurs en grève, qui explique ici la situation, pas de reprise de travail, si les salaires ne sont pas versés.
Nous ne sommes pas payés. Pourquoi accepter que les gens viennent travailler? C'est donc la raison pour laquelle nous avons tout barricadé. On a soudé, oui. En fait, c'est là l'expression vivante de notre fureur. C'est une histoire de bailleurs. Depuis un certain temps, le Fonds mondial avait décidé de ne plus prendre en charge tout l'ensemble du personnel. Et donc, il ne peut intervenir qu'au niveau de 7 départements. Mais nous qui sommes victimes, nous ne sommes pas dans la capacité de nous engager et faire un travail, comme on dit communément, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dit, tant que nous n'avons pas notre dû, nous ne pouvons mener aucune action. Et c'est une décision collégiale. Dans les différentes démarches que nous avons pu mener, on a pu saisir les autorités habilitées. Et présentement, ils nous ont rassuré que le dossier a largement avancé.
De leur côté, les malades du sida sont aux abois. Ils ne bénéficient plus de l'assistance que leur apportait la centaine d'agents en grève depuis septembre 2015. Thierry Mabin, séropositif et responsable médicament du réseau des positifs du Congo, dénonce le manque d'attention des autorités sur la situation des séropositifs.
Mais c'est depuis longtemps où le CNLS n'a toujours pas l'argent de l'État. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, on peut parler de la situation du CNLS. Mais qu'en est-il pour l'association des ARV? Il faut aller voir là où on stocke les médicaments des personnes vivant avec le VIH. Et même actuellement, où je vous parle, nous sommes en rupture de stock. Et cette rupture est devenue une rupture chronique. La coordination ne marche pas. Donc c'est vraiment la débandade.
Inquiet, mais toujours avec une lueur d'espoir, un agent lance, nous venons de commencer notre 21e mois sans salaire, Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Fadi Maïga est une jeune malienne de 22 ans qui, après le bac au Mali, est partie étudier la mode et le stylisme au collège La Salle de Tunis, en Tunisie. Ses talents ont été connus grâce au premier festival du Bazin, Festi Bazin, à Bamako. Elle se dit un exemple de réussite pour les jeunes de son âge et veut aider à la promotion des droits de la petite fille et de la femme au Mali. Au micro de Kadiatou Traoré, on écoute la jeune styliste malienne Fadi Maïga.
J'ai toujours aimé tout ce qui est artistique, mais j'ai toujours eu une préférence pour la mode. Donc j'ai essayé de suivre ma voie en étudiant dans la chose, que j'ai fait un bac littéraire. Après ça, je suis allée en Tunisie. J'ai fait ma formation à Collège Laval, Tunis. C'est comme ça que je suis devenue styliste. J'avais des idées claires, en fait. Mon entendement par rapport à la mode, les changements que je voulais apporter, donc j'ai préféré rentrer pour exercer mon métier.
Vous avez lancé votre marque qui s'appelle Borchini. Ça veut dire quoi?
Borchini, c'est Soreil, qui est ma langue paternelle. Ça veut dire noblesse en Soreil. C'est une vision. Je l'ai depuis étudiant, mais j'ai vraiment commencé à travailler sur ça depuis 2 ans. C'est vrai que j'utilise beaucoup le bazin. J'ai juste essayé d'apporter une touche de modernité à ça pour voir jusqu'où je peux aller avec. D'ailleurs, quand je défile à l'extérieur, on me dit que je tutoie le bazin. Sinon, à part ça, je ne m'interdis aucune matière. Je touche à tout. Que ce soit du wax, du boulon, tout quoi.
On vous a vu pendant la première et la deuxième édition du Festival Bazin. Et nous avons remarqué que vous avez des modèles vraiment originaux, la broderie sur le bazin teint ou autre. D'où est-ce que vous puisez cette inspiration?
Je peux dire que ça vient de divers horizons, dans le sens où moi je me considère citoyenne du monde. Mon inspiration, je le puise surtout aussi dans le social que nous vivons tous les jours. Lors du coup d'État, par exemple, ça m'a sorti lors de la première édition du Festival Bazin. Je suis allée sur le Vergeon Rouge pour montrer le symbole de la patrie. Il y avait tout ce qui se passait au nord. Disons que je suis inspirée parce que je vis. J'essaye de refléter un peu ce métissage dans lequel je me retrouve.
Vous avez ouvert une agence de mannequinat. Mmh. Qu'en est-il exactement?
Oui, j'ai une agence de mannequinat. Le but, en fait, c'est plus pour qu'ils aillent aussi à l'échelle internationale. Parce que nous recevons des mannequins ici. Donc, je me dis que de la même manière que nous partons défiler dans les autres pays et tout, j'aimerais que nos mannequins puissent aussi aller défiler dans tous ces pays et que nous émergeons ensemble parce qu'il y a une seule mode, en fait. Sans mannequins, mannequin, il n'y a pas de défilé.
Vous êtes jeune styliste, vous êtes une femme. Alors, qu'entendez-vous faire pour promouvoir la petite fille, la femme au Mali, pour donner beaucoup plus de voix à la femme malienne?
D'être déjà un exemple pour certaines personnes, certaines jeunes filles ou même garçons de mon âge ou mes petits frères et sœurs, d'encadrer plus ou moins souvent les gens qui m'approchent, d'être ouverte et utile à la génération qui peut me suivre. Je n'ai pas d'autre choix que de faire plus que d'avoir des ambitions plus grandes et plus professionnelles. Je préfère faire cas de concret.
La styliste malienne Fadi Maïga. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.